Chapitre 33. Chloé, 8 jours plus tard, 31 juillet 2018. Les funérailles ont eu lieu ce matin. Elle est morte dans son sommeil, sans souffrance. Cela faisait des années que son cœur faiblissait, mais elle n'avait pas ralenti le rythme pour autant. Au contraire. Olga, entre deux salves de larmes, a ainsi résumé la situation. Elle s'est amusée comme une petite folle jusqu'au bout. Alors même si ça l'a tuée, je suis sûre que ça l'a fait bien rigoler là-haut, d'avoir fini sa vie par un mariage en plein Times Square. Olga a sûrement raison. Elle a toujours eu le don d'alléger les atmosphères les plus lourdes. Je me tiens debout dans le Calvary Cemetery, à quelques centaines de mètres du carré des Anonymes, dans lequel repose Pasqualina. Mais l'ambiance n'a plus rien à voir aujourd'hui. La musique de West Side Story retentit, et c'est la voix de Patty que l'on entend. L'émotion est palpable. Il y a des caméras un peu partout, et une foule d'anonymes venue lui rendre un dernier hommage. Janice est en larmes, Gina aussi. Il était 8h du matin le 24 juillet, lorsque j'ai entendu des coups sur la porte de la chambre d'Olga et Gina. Je me suis précipitée, le cœur battant. Et ma grand-mère s'est effondrée dans mes bras. Gina tenait des propos totalement incohérents, n'arrêtait pas de parler d'une certaine Madame Salomé, répétant en boucle que celle-ci avait prédit que la mort viendrait frapper à sa porte peu de temps après, et qu'au lieu de la mort, c'était Janice qui avait frappé à la porte, mais que la mort était avec elle, qu'on n'avait pas idée de donner une prédiction aussi floue, aussi alambiquée, que Madame Salomé était une bien mauvaise voyante, et qu'elle espérait la revoir un jour pour lui dire ses quatre vérités. Enfin, pas la revoir vraiment. La revoir quand la mort aurait vraiment frappé à sa porte. La vraie mort. Avec le truc pour faucher les gens, hein ? Pas Janice. Je ne comprenais strictement rien. Jusqu'au moment où j'ai vu Janice sortir de la salle de bain, le visage saturé de tristesse. Patty était morte, 2 jours auparavant. Je me suis demandé pour quelle raison Janice n'avait pas simplement téléphoné pour annoncer la nouvelle. Je n'ai rien dit, attendant les explications qui n'allaient pas tarder. Janice a saisi les mains de Gina et lui a murmuré ces quelques mots. « Gina, Patty nous a désignés, vous et moi, comme ses seules héritières. » Gina a dû s'asseoir. Olga a failli avaler son dentier. Et je suis restée muette, paralysée par un étrange sentiment. Mélange de peine, de stupeur et d'incrédulité. Patricia n'avait pas de famille. Ni frère, ni sœur, ni enfant. Une existence italo-française avec laquelle tout contact a été rompu en 1938. Ainsi a-t-elle décidé, il y a quelques années, de léguer la totalité de sa fortune à sa fidèle assistante, confidente, amie, Janice. Mais après avoir revu Gina, Patricia a souhaité l'ajouter sur son testament. Janice a trouvé l'idée formidable. Gina a commencé par refuser cet extravagant et improbable héritage qu'elle pensait ne pas mériter. Mais Janice n'en a pas démordu. Alors toutes deux se sont embrassées longuement. Et Gina a finalement accepté avec un grand sérieux le legs de Patty Milano. Puis Janice nous a expliqué les dernières volontés de Patty. Nous sommes restés perplexes. Patricia ayant vécu ses premières années en France, elle souhaitait laisser une trace dans son pays de cœur. Patty souhaitait, entre autres, qu'une partie de ses cendres soit dispersée dans le jardin des Tuileries, à Paris, ce qui est bien évidemment illégal. J'ai tenté de dissuader Janice et Gina de se lancer dans une entreprise si délicate, mais autant prêcher dans le désert. Malgré la gravité de la situation, Olga n'a pas pu s'empêcher de m'envoyer un coup de coude et me glisser à voix basse. « Tu vois, on aura finalement transporté bien pire que quelques grammes de bœufs. » Il est près de 17h en ce 31 juillet 2018. Gina et Olga sont à l'arrière de la voiture et je suis à l'avant. Manhattan s'éloigne dans le rétroviseur. Luther nous conduit vers l'aéroport JFK. Ce que je ressens à cet instant est un mélange inextricable de sentiments contradictoires. Une certaine excitation teintée de peur à l'idée de ce que nous nous apprêtons à faire. Une immense joie et une insondable terreur à l'idée de rencontrer mon fils pour de bon. et puis une pointe de tristesse et d'incertitude concernant ma relation avec Luther. Alors que nous filons vers l'aéroport, j'observe son beau visage. Il ressemble à un gamin en plein contrôle de maths, fronçant les sourcils et crispant ses mâchoires tant il est concentré sur la route. Son expression me décroche un sourire. Il s'en aperçoit, prend un petit air outré, puis il pose sa main sur la mienne, et je comprends que ça n'était pas la conduite qui le préoccupait. Il se penche légèrement vers moi sans quitter la route des yeux, et chuchote quelques mots en anglais, afin que personne d'autre ne comprenne la teneur de ses paroles. « Tu es bien plus forte que tu ne le penses. Tout va bien se passer, Chloé. » Sa main libre reste sur la mienne. Je sens un frisson parcourir mon corps. Il y a 3 jours, nous nous sommes embrassés, tels 2 acteurs de comédie romantique, au sommet de l'Empire State Building. Je me suis surprise à lâcher prise, à m'autoriser à ne penser à rien d'autre qu'à l'instant. Nous ne sommes pas allés plus loin qu'un simple baiser. Je ne suis pas prête à vivre une histoire avec qui que ce soit. Pas encore. Mon esprit est ailleurs, avec mon fils. Mais j'ai désormais acquis la conviction que je serai prête un jour. Je ne sais pas quand ce jour viendra. Je ne peux rien promettre, c'est trop tôt. J'ai besoin de prendre le temps d'apprivoiser mon enfant. De devenir mère. Luther sera-t-il capable de m'attendre? Sera-t-il capable de me suivre en France le moment venu? Il a baissé les yeux, a gardé le silence lorsque je lui ai posé cette question. Je ne lui en ai pas voulu. Nous nous connaissons à peine au fond. Bien sûr, chacun de nous sent bien qu'il y a quelque chose. Que ce quelque chose pourrait évoluer en des sentiments bien plus grands avec le temps. Mais comment demander à un homme aussi séduisant que lui d'attendre une pauvre fille en perdition? Il n'a pas répondu à ma question, mais me l'a retournée. Et toi, pourrais-tu me rejoindre à New York avec ton fils? J'ai été incapable de répondre sur le coup. Mais à quelques instants de notre séparation, dans cette voiture filant à vive allure dans une banlieue new-yorkaise bien triste, le vide que je ressens à l'idée de ne plus voir Luther amplifie mes sentiments. Je sens la chaleur de sa peau sur la mienne, et je sais que j'aurai envie de garder cette main-là sur moi, longtemps. Je sais que je pourrais venir m'installer ici, dans cette ville, avec lui. J'hésite encore quelques secondes, et je me décide à le lui dire. Au moment de me jeter à l'eau, il me devance. Il me jette un regard d'une douceur infinie, un sourire sincère, et comme si nos esprits étaient connectés, me lance. Tu m'as posé une question l'autre soir. La réponse est oui. Oui, je pourrais te rejoindre. M'installer en France avec toi. Avec vous. Je ne sais pas si tout cela pourrait marcher, mais j'ai envie d'essayer. Je t'attendrai, Chloé. Il continue de sourire, puis ajoute en riant. En revanche, si tu pouvais me rappeler avant que je ne sois grabataire. Il me fait rire et je suis émue. Je dépose ma paume dans la sienne, tout en pensant que décidément, ces voitures automatiques qui laissent une main libre sont bien pratiques. C'est à mon tour de parler. Luther, toi aussi tu m'as posé une question l'autre soir. La réponse est oui. Oui, je pourrais sans doute venir m'installer ici. Et je suis sûre que tu seras très beau avec un déambulateur. Il éclate de rire. Je me penche vers lui, dépose un baiser sur sa joue. Olga, qui n'en loupe pas une, nous lance. Bon, je suis très heureuse de constater que mon plan pour vous mettre ensemble a fonctionné. Mais j'aimerais bien qu'on arrive vivant dans cet aéroport JFK. Alors si vous pouviez attendre un peu pour vous bécoter. Puis elle regarde Gina et lui lance en riant. Si tu veux mon avis, on n'en a pas fini avec les mariages à New York. Le revoir à Luther est déchirant. Nous promettons de nous appeler souvent. Il me souhaite bonne chance dans ma nouvelle vie qui commence. Me répète que je vais y arriver, qu'il a hâte de rencontrer mon petit bonhomme. Puis nous nous embrassons longuement, sous l'œil égrillard et les commentaires à voix basse d'Olga et Gina. Je n'ai pas le temps de m'apitoyer. mon corps tout entier étendu lorsque nous passons les contrôles de sécurité. Chacune de nous a dans son bagage à main une petite bouteille d'eau minérale remplie officiellement de sable grossier ramassé au gré de nos pérégrinations aux États-Unis. Aucun moyen de savoir de quoi il s'agit vraiment, sauf si l'on tombe sur un douanier retors. Gina et moi passons sans encombre, mais le sac d'Olga est dirigé vers une inspection plus approfondie. J'espère qu'elle n'a rien sur elle d'illégal. Je veux dire, à part une partie des cendres de Patricia. Je l'observe de loin. Elle gesticule devant le contrôleur qui observe le contenu de son sac, mimant je ne sais quelle position obscène. Au bout d'un moment, l'homme éclate de rire et la laisse repartir. Qu'est-ce que tu lui as dit pour qu'il se mette à rire comme ça? Tu sais bien que je ne parle pas un mot d'anglais. Mais j'ai compris qu'il voulait savoir d'où venait ce sable. Il a dit quelque chose comme « Florida sand, forbidden, tu ne peux pas ». Je ne sais pas si c'est vrai cette histoire de sable de Floride forbidden. Janice ne nous a rien dit à ce propos. Et de toute façon, on est à New York. Bref, j'ai quand même préféré inventer une histoire pour noyer le poisson. Alors j'ai mimé des relations sexuelles, puis le fait de ramasser une poignée de sable partout où je forniquais. J'ai joint quelques paroles aux images. J'ai dit quelque chose comme « Me, I sex out forest parks. Me, I sex men. Me, I take sand, souvenir. » Il était mort de rire. Il m'a dit « You funny » et m'a laissé passer. Olga est incroyable, vraiment. Je comprends maintenant pourquoi ma grand-mère l'aime autant. Elle est si différente d'elle, mais aussi si différente tout court, qu'elle en devient attachante. Ce n'est que lorsque nous sommes dans l'avion qu'elle me glisse à l'oreille. Heureusement qu'il n'a pas cherché dans les poches de ma veste. Je ne sais pas si elle plaisante, elle est hilare, et je crois que je préfère ne pas le savoir.